Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Chers amis, auditeurs et auditrices de la web Radio Rage, voix de jeunes, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de votre émission Invité de la semaine. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir dans ce numéro la représentante et la chargée de plaidoyer de l'ONG Oxfam Solidarité, Madame Virginia Moura.
Bonjour, enchantée.
Bonjour Virginia et bienvenue sur le plateau de la web Radio Rage, Voix du Jeune.
Merci beaucoup.
Alors, Oxfam Solidarité mène des actions humanitaires un peu partout dans le monde et aussi en Algérie et plus exactement en faveur du réfugié sahraoui à Tindouf.
Exact.
Pouvez-vous nous parler de votre ONG, sa naissance, ses objectifs généraux et ses actions d'une manière générale?
Absolument. Alors, moi je travaille pour Oxfam Solidarité, qui est une branche, d'ailleurs la branche belge, d'Oxfam, qui est une confédération qui travaille dans plus de 90 pays en ce moment. Donc Oxfam travaille avec trois buts précis en tête. Le premier, c'est de sauver des vies. Donc en gros, c'est de fournir de l'aide essentielle. Donc là, on parle de distribution alimentaire, on parle de distribution d'eau, de construction de maisons, etc. Deuxièmement, on parle de moyens de subsistance. Donc là, c'est plutôt reconstituer ou renforcer les moyens de subsistance des populations avec lesquelles on travaille, soit qui sont affectées par des catastrophes, des crises ou la pauvreté de manière générale. Maintenant, le troisième axe, celui qui m'intéresse un petit peu plus, c'est le plaidoyer. Donc Oxfam, sa caractéristique, c'est que dans chaque crise où on travaille, on a un axe de plaidoyer. Donc l'idée, c'est de militer pour que les populations se fassent entendre, aussi bien au niveau local par leur gouvernement, ou différents acteurs d'ailleurs, qu'au niveau international. Donc voilà, ça c'est plus ou moins les trois axes d'Oxfam. Et dans tous les cas, on travaille au plus et au mieux avec des partenaires locaux. Donc dans tous les cas, avec des partenaires de société civile, des partenaires dans tout genre locaux, pour vraiment que notre action soit incorporée dans la société.
Donc Oxfam, elle est vraiment dans l'aide humanitaire.
Humanitaire et développement, donc c'est les deux.
Donc si je ne me trompe pas, Oxfam active dans les camps des réfugiés à Tindouf depuis 1975, c'est ça?
Exactement, donc depuis le début de la crise des réfugiés.
Et vous, Virginia, vous êtes dans la région depuis combien de temps?
Donc moi, je suis là que depuis un an.
Okay.
C'est quand même pas mal, en fait, y repensant. Mais ouais, depuis un an, je suis dans les camps, en passant un petit peu par Alger, mais je suis quand même basée dans les camps.
D'accord. Et donc, pendant cet an de séjour dans les camps des réfugiés, pouvez-vous nous donner la situation des réfugiés dans ces différents camps? Parce qu'il y a plusieurs camps, donc il faut signaler qu'il y a plusieurs camps. Et est-ce que vous pouvez nous donner la situation dans ces différents camps?
Absolument. Donc, il y a 5 camps de réfugiés. Ils sont tous les 5 dans la wilaya de Tindouf, donc au sud-ouest de l'Algérie. Donc, il y a le camp de Boujdour, de Smara, d'Aoussard, de Laayoune et de Darla. Darla étant celui qui est le plus éloigné, à plus ou moins 200 km de Tindouf. Donc, bon, la situation de manière générale, la situation humanitaire est assez critique. Malheureusement, après 43 ans, c'est toujours une situation assez désolante. C'est-à-dire que du point de vue de distribution alimentaire, du point de vue de l'accès à l'eau, à l'éducation, on a toujours des besoins qui sont malheureusement pas encore acquis. Donc par exemple, nous on travaille dans la diversité alimentaire, nous chez Oxfam. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait des distributions de produits frais. On fait par exemple des patates, des oignons, des fruits quand on peut. Et bon, on fait au mieux avec les moyens qu'on a. Mais malheureusement, concrètement, ce qu'on donne maintenant, c'est 2 kg de produits frais par mois. Des rations de 2 kg. Donc, il faut essayer d'imaginer ça concrètement. Ça fait quelques pommes de terre, quelques oignons.
Donc, c'est peu.
Bah, pour nous, c'est aberrant. Oh. C'est-à-dire que si nous, on devait survivre sur ça, ce serait assez critique. Et après 43 ans, c'est... pour nous, c'est assez incroyable. Ouais.
Et est-ce que vous faites le tour de ces 5 camps chaque jour?
Pas tous les jours, moi, mais dans notre équipe, on est plus ou moins 25 personnes. Il y a toujours des gens sur le terrain, oui. On a plusieurs projets, donc projets générateurs de revenus, on a des projets d'hydroponie, des projets de distribution alimentaire, etc. On est tous les jours sur le terrain, oui.
Justement, vous qui vous êtes là-bas depuis 1975, donc est-ce que c'est possible de nous donner Un petit historique sur cette crise des Sahraouis.
Oui, absolument. Donc, en gros, l'histoire du conflit remonte à l'époque où, à l'époque, l'Espagne était en fait le pouvoir colonial au territoire du Sahara occidental. Donc, l'Espagne était la colonie de 1884 jusqu'en 1975. Donc, pendant quand même pas mal de temps. Et en 1975, elle a décidé de se retirer de la zone. Sauf que malheureusement, elle l'a fait de manière incomplète. Et c'est là que le Maroc du côté du nord et la Mauritanie par le sud sont rentrés pour prendre contrôle du territoire. Le conflit a duré 16 ans. C'est quand même très très long. Beaucoup de vies ont été perdues. On voit des blessés encore maintenant, des blessés de guerre. Ensuite, en 1991, il y a eu un cessez-le-feu. Et depuis, il n'y a pas de conflit ouvert, mais il n'y a pas de résolution non plus. Donc on est en fait dans un espèce de limbo, dans un entre-deux, qui fait que la situation s'est un peu congelée. Maintenant, c'est la 43e année que les Sahraouis en fait, attendent que la situation évolue. Et malgré l'existence de la MINURSO, c'est-à-dire la mission des Nations Unies au Sahara occidental, malgré ça, ils n'ont pas vraiment accompli encore leur mandat. Et donc, on ne voit pas trop de résolution dans l'horizon, quoi.
Oui, souvent d'ailleurs, quand on parle des réfugiés, c'est généralement c'est pour des courtes durées. Ouais. Mais là, justement, on est face à une situation qui dure et qui dépasse, comme vous venez de citer, 43 ans, c'est beaucoup quand même, pour un statut de réfugié. D'ailleurs, il y a des gens qui sont nés là-bas, ils sont grandis là-bas, et ils ont même des enfants et mariés là-bas. Donc, qu'en est-il de la scolarisation, la formation, les soins et le travail de ces réfugiés?
Bon, alors pour la scolarisation, il y a des écoles dans les camps. Les enfants sahraouis peuvent commencer dès la primaire jusqu'au secondaire. Mais après, dès qu'on parle d'université, de formation un petit peu au-delà de l'école basique, bah là, ça devient plus compliqué, il n'y en a pas. Donc, les jeunes étudiants doivent directement partir soit dans le reste de l'Algérie, soit à l'étranger, mais ça aussi c'est un petit peu compliqué parce que à l'époque il y avait des pays comme la Libye ou Cuba qui accueillaient les jeunes. Maintenant c'est un peu plus difficile parce que c'est des pays qui ont plus trop ces moyens là. Donc en fait les jeunes ont plus du mal à trouver des endroits où se former justement. Donc de ce côté là en fait c'est plutôt la problématique dont souffrent les jeunes. Après du côté santé, bon, c'est clair que c'est pas suffisant. On travaille avec des ONG international et local sur la santé, et ils disent que les besoins sont encore une fois affolants, comme dans tous les domaines d'ailleurs. On parle de l'eau, de l'éducation, la construction, tout ça, l'infrastructure. Donc dans tous les domaines, c'est encore aujourd'hui vraiment largement insuffisant. Ouais, on peut dire ça.
Donc les jeunes après le secondaire partent ailleurs, soit en Cuba, soit en Libye.
Oui.
Comment ils font pour voyager justement?
Bon, en gros, eux, ils ont des cartes d'identité sahraoui, mais sinon, beaucoup aussi des passeports algériens. Donc, ce sont des passeports qui ont une petite différence, c'est-à-dire que en Algérie, on voit que c'est des sahraouis puisque les chiffres sont différents, mais pour le monde international, c'est un passeport algérien comme un autre. Donc, ça les permet de voyager. Après, pour les pays que j'ai cités, en fait, c'est des pays qui ont une solidarité envers le peuple sahraoui et qui accueillent les sahraouis gratuitement et leur font des bourses, etc. Donc ça n'a pas été trop compliqué dans le passé. Maintenant, ça se complique un peu, mais avant, ça allait.
Face justement à ces points que j'ai cités, quelle était votre action par rapport à ces points?
Donc nous, on travaille dans plusieurs domaines différents. Pour l'instant, on travaille dans la distribution alimentaire, donc c'est la sécurité alimentaire. Dans le passé, on a travaillé déjà dans l'eau. On travaille aussi dans l'hydroponie, c'est quelque chose de nouveau, où en gros, on essaie de trouver des nouvelles façons de justement des nouvelles façons agricoles de produire dans les camps, malgré le climat. Je ne sais pas si vous avez déjà été autour de Tindouf, c'est carrément pas agréable. Donc voilà, dans un climat quand même très aride, donc on trouve des nouvelles façons. Après, nous, on a aussi des projets générateurs de revenus, comme j'ai un petit peu signalé tout à l'heure. Mmh. C'est des projets où on travaille vachement avec la jeunesse pour essayer de stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc voilà, on a plusieurs projets, mais il y a énormément d'ONG, je crois. On est au moins une vingtaine d'ONG internationales. Donc chacun a son domaine plus ou moins de prédilection. Certains, c'est la santé, certains, l'éducation, etc. Donc on essaie de couvrir au maximum les besoins, mais comme j'ai dit, on n'y arrive malheureusement toujours pas.
Parlons d'ONG et d'organisation. Est-ce que vous avez des partenaires sociaux en Algérie et au Sahara occidental?
Alors, en Algérie, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec les associations de société civile, justement, pour stimuler un peu la société civile sahraoui, qui est quand même très jeune, à justement rencontrer des membres d'autres sociétés civiles, notamment en Algérie. Donc, on essaie un petit peu de ce côté-là, mais c'est très nouveau. Par contre, dans les camps de réfugiés, oui, on a des partenaires, notamment Nova, qui est une organisation de non-violence active, qui est très récente, mais qu'on essaye vraiment d'appuyer et d'encourager pour qu'ils continuent, parce qu'ils font un super bon boulot. Après, on a Fapredessa, qui est une organisation de droits de l'homme, qui travaille pour les disparus, en fait, toujours de guerre. Et après, on travaille un petit peu en partenariat avec tout le monde, en fait. On va piocher un peu à droite à gauche. On est toujours en contact avec tout le monde. On veut pas du tout que notre travail soit juste nous qui arrivons et qui faisons un travail. On veut vraiment l'incorporer dans la société. Donc, on travaille vraiment avec tout le monde, ouais.
Et donc, il y a quand même une solidarité qui se dégage dans ce sens.
Oui, après autant de temps, forcément.
Mais est-ce que justement cette solidarité qui existe aujourd'hui répond aux besoins élémentaires des Sahraouis ?
Malheureusement, toujours aujourd'hui, je vais dire que non. C'est-à-dire que si, moi, j'ai passé plusieurs jours, par exemple, avec les Sahraouis, on voit que pour des choses de base, ils ne peuvent toujours pas vivre en dignité. Après tout ce temps-ci, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des conditions de vie, c'est leur maison qui tiennent pas, c'est des toits en tôle alors qu'il fait 55 degrés l'été, c'est des toilettes pas du tout correctes, enfin c'est plein de choses comme ça qui en fait font que la vie de tous les jours n'est toujours pas acceptable. Enfin, nous, on vivrait jamais dans ça, par exemple. Ça nous semblerait complètement surréel, et eux, ils vivent dedans depuis 43 ans.
Vous venez de parler aussi des projets en faveur des jeunes, Sahraouis, et aussi des initiatives citoyennes. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu, brièvement, sur ce projet ? C'est quoi ces projets ? Qu'est-ce qui consiste ?
Absolument. Donc, chez Oxfam, on a un petit peu identifié la situation de la jeunesse comme compliquée dans les camps. Donc, on essaie d'avoir plusieurs projets. Donc, ça fait des années qu'on travaille justement avec les organisations locales. Donc, c'est un appui qu'on fournit vraiment pour les encourager, parce que ce sont des super initiatives. Qui ont besoin de se développer comme organisation locale, donc c'est plutôt sur ça qu'on travaille. Après, on essaie un petit peu d'encourager les projets individuels aussi, des choses un petit peu particulières. Par exemple, il y a un garçon qui, après les inondations, il y a eu des inondations en 2015, après ça, il a pris des bouts de bois, des bouts de métal qu'il trouvait dans la rue, vraiment, et il a fait un studio d'art à partir de ça. C'est quelque chose, je trouve surréel, je l'ai vu, je me suis dit, ce mec est un génie. Et on a vraiment essayé de l'encourager, parce que ce genre d'histoire, c'est vraiment ce qui peut avoir de la visibilité au niveau international. Et même au niveau local, c'est encourager la jeunesse et travailler avec eux, leur donner espoir, leur dire que voilà, ce genre d'initiative, c'est vraiment important. Donc il y a tout ça, après les projets d'entrepreneuriat, comme j'ai dit. Donc c'est des choses quelquefois assez bêtes, mais c'est aussi intéressant. On a des projets, par exemple, de jeunes qui ont décidé de, enfin, pour en dire certains, qui sont les plus particuliers, il y en a certains qui ont décidé d'ouvrir une auto-école pour femmes. Et il y en a qui ont fait des restaurants, il y en a qui ont fait des hammams, il y a un peu de tout, des soutiens scolaires, etc. Donc plein de projets vraiment intéressants. À côté de ça, il y a la société civile. Donc hier, justement, on était à une rencontre de société civile où vous étiez présent.
Oui, on était présent.
Et il y avait d'autres membres de la société civile algérienne aussi. Et on s'est rencontrés avec quatre membres de la société civile sahraoui. Donc voilà, le soutien de la société civile, c'est vraiment important dans les camps, parce que c'est une notion qui est un peu nouvelle. Mais finalement, c'est les Sahraouis qui sont sortis avec ça tout seuls. Donc le besoin est là. L'envie est là, c'est plutôt les organisations qui ont besoin d'appui, quoi. Mais voilà, donc eux, ils organisent beaucoup de formations. Ils ont vraiment envie d'avoir des capacités, en fait, de renforcer leurs capacités. C'est des capacités qui sont complètement transférables. Quand on pense à la communication, le plaidoyer, c'est quelque chose qui va leur servir de toute manière. Au-delà de ça, on essaie de stimuler des discussions, donc des dialogues entre les jeunes, entre eux. Et aussi avec les autorités, avec d'autres groupes, des imams, un peu tout le monde. Puis pour le plaidoyer, c'est super important qu'ils puissent parler eux-mêmes. Et c'est vraiment ce qu'on veut, en fait, en tant qu'Oxfam. On veut pas du tout venir et parler à leur place. Moi, je suis chargée de plaidoyer, donc c'est vrai que je parle beaucoup, en fait, pour eux. Mais le plus important, sur le long terme, c'est qu'eux, ils parlent pour eux-mêmes. Donc ça, pour nous, la société civile, c'est hyper important pour ce genre de choses. Et voilà, donc le but aussi, c'est d'augmenter la visibilité de la crise, qui est quand même complètement oublié.
Ouais, exactement.
Et donc voilà, c'est ça qu'on essaie de faire avec la jeunesse en ce moment.
Et justement, parlons toujours de cette jeunesse et de ces jeunes qui représentent un pourcentage vraiment important. Et ces jeunes qui sont nés et grandis dans ces conditions précaires, dans une région comme Tindouf, une région hostile sur toutes les formes de vie, qu'en est-il aujourd'hui de leur état d'esprit ?
Bah justement, la jeunesse, je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures, parce que dans les camps, c'est vraiment très particulier. Je veux dire que moi, je ne m'attendais pas à ça en arrivant. Bah, la jeunesse, il faut en fait s'imaginer un petit peu le contexte. Les jeunes, la plupart des jeunes sont nés dans les camps, donc ils sont nés en tant que réfugiés.
Ouais.
Ils voient leurs parents tous les jours qui vivent dans des conditions, on peut dire librement, d'humiliation, enfin de manque de dignité. Donc ces jeunes, ils ont ça. Il y a le chômage. Au-delà du chômage, vraiment, je pense le mot désœuvrement, parce que c'est ça. Ils n'ont pas d'activité, en fait. Ils sont présents. Pour la plupart, ils ont fait des études. Donc ils sont là. Moi, je connais des ingénieurs biochimiques qui n'ont ni travail, ni occupation, ni vraiment hobby. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, il y a ça, il y a le fait qu'il y ait l'oubli et je peux dire le silence de la communauté internationale. Ça c'est très très pesant pour les jeunes, surtout ceux qui sont plutôt axés sur la politique, etc. La plupart ils sont informés, ils sont vraiment au courant à travers internet, à travers tout. Ils sont au courant de ce qui se passe dans d'autres pays. Et ils sont au courant qu'il y a plein, par exemple, de nouvelles sur des pays comme la Syrie, etc. Le Yémen, et chez eux, rien. Le silence complet.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils demandent, ces jeunes ? Et quels sont leurs projets ?
Bah, justement, les jeunes, en fait, ils ne sont pas sûrs de quoi demander. C'est-à-dire que quand ils regardent dans le futur, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils voient. Et aujourd'hui, on avait une réunion avec des ambassades, en fait, ici à Alger. Et la question a été posée de « qu'est-ce que vous voyez dans votre futur ?» Et c'est drôle parce qu'en fait, ils ne savaient pas quoi dire. Et il y en a qui ont dit « on a de l'espoir, on ne va jamais laisser tomber l'espoir, on a la lutte dans notre cœur et ça ne va jamais partir, mais la vie est dure.
Ouais. »
Et tout doucement, avec le temps, autant on essaye de ne pas laisser tomber, etc., autant c'est difficile. Et il y en a un qui a dit, je trouve, ça ne dérange pas que je cite ce qu'il a dit, je trouvais ça super, il a dit « quand vous nous demandez ce qu'on veut faire de notre futur, je vais vous dire que nous, on va dans l'inconnu. Et le futur jusqu'à maintenant, ça a toujours été sombre.
Oh, c'est quand même fort comme un message.
C'est très fort. Et, ouais. Et je pense que ça dit beaucoup. Malheureusement, c'est des jeunes qui laissent tomber. Il y en a qui sortent pas, qui ont jamais connu autre chose que des camps. Et enfin, moi, je peux vous dire, vu que ça fait quand même un an que je suis là, c'est vraiment dur, c'est une vie trop dure pour des jeunes en fait.
Oui, surtout leur frustration quand ils voient justement que leur cause est dans un stade stagné. Est-ce que justement il n'y a pas de risque de radicalisation, notamment par rapport à ce qui se passe dans la région, par rapport au contexte actuel ?
Bah écoutez, la frustration c'est quelque chose de sûr, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a identifié depuis longtemps. Les jeunes sont frustrés parce que justement ils ont ce niveau-là de d'éducation et de connaissances et de voir que c'est pas reconnu, c'est pas gratifié en fait. C'est quelque chose qu'ils ressentent très fort. Après radicalisation, je saurais pas trop quoi vous dire. On n'a pas fait d'études encore élargies. On n'a pas de données exactes, mais les jeunes, eux, en tout cas même aujourd'hui, l'ont dit, ils sont pas exemptés de la radicalisation de la situation de la région. Ils sont là, c'est des jeunes comme tout le monde. Ils se prennent pas pour des gens plus nobles ou plus comment dire protégés de cette radicalisation. Et voilà, c'est un risque qui existe et ça existe dans les camps. Ouais.
Et vous, en tant que Oxfam Solidarité, qu'est-ce que vous imaginez comme solution ?
Bah écoutez, la solution, on n'est pas trop sûr, mais en tout cas, ce qu'on veut certainement, c'est que la voix des Sahraouis soit entendue et prise en considération. On veut que les discussions et les négociations se passent de manière aussi constructive et pacifique que possible au niveau international. Et si le résultat, c'est un référendum, alors après, ça, c'est du ressort des votants. Mais nous, entre-temps, on veut vraiment promouvoir la parole des Sahraouis qui ne sont pas assez entendus.
Donc, Virginia, un mot de la fin sur le conflit sahraoui qui perdure encore et encore, ou que la population qui paye les conséquences ?
Bah écoutez, moi je peux vous donner même une phrase,
oui,
si vous me
avec
le
plaisir.
Demandez. Moi je peux dire qu'après tout ce temps, moi je trouve assez fou en fait que la crise soit aussi oubliée. C'est-à-dire que je vois avec mes amis, moi je suis belge, donc en Belgique, mais je vois en France, etc., les gens connaissent pas la crise. Et s'il y a une chose qu'on peut faire en tant qu'individu, qu'on soit, qu'on travaille pour n'importe qui, qu'on soit au chômage, qu'on soit étudiant, qu'on soit âgé, ce qu'on peut faire, c'est essayer de vraiment sortir les Sahraouis de l'oubli. D'en parler, je veux dire, et ça demande pas beaucoup, ça demande une conversation avec un ami, un tweet, un post sur Facebook, une toute petite chose. C'est un énorme pas en avant pour les Sahraouis. Donc j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, voilà, taper juste Sahara Occidental sur Google, faire une petite recherche, voir de quoi on parle et être informé. Surtout, je pense, en Algérie, c'est vraiment important, parce que bon, vous le savez sûrement mieux que moi, mais je pense que c'est quand même une crise dont on n'est pas assez courant, au courant même ici, alors que c'est dans le pays.
Absolument, même aussi justement des petites rencontres qui dégénèrent les débats sur la question des Sahraouis peuvent donner un plus pour cette cause, peuvent donner une solution et une sortie pour ce peuple qui est largement souffert. Le chiffre le dit, 43 ans, donc c'est beaucoup pour un statut de réfugié dans ces conditions. On veut remercier Madame Virginia Moura d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour nous parler de la situation dont elle vit les réfugiés sahraouis à Tindouf.
Merci beaucoup, ce fut un plaisir.
Merci beaucoup. Donc, à partir de ce plateau de la radio Rage, une radio libre pour une parole libre, Rage lance un appel au gouvernement de la région, à l'Organisation des Nations Unies, à l'opinion internationale et à la société civile à s'engager et œuvrer pour trouver une solution durable à ce conflit qui a trop duré et mettre fin aux souffrances des Sahraouis. Et cela va accélérer la construction d'un Maghreb des peuples sans frontières où les droits humains seront respectés, les libertés garanties, un espace tant attendu pour les Africains du Nord. Pour vous, chers auditrices et auditeurs de la Radio Rage Voix du Jeune, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et un autre sujet. Au revoir.
Radio Rage, Voix de Jeune, une radio libre pour une parole libre.